brièvement évoqué nazisme et anthroposophie, donc je vais, avant de débuter mon intervention et de parler de ces deux contributions, je voulais répondre sur un point, sur nazisme et anthroposophie. Un auteur, Peter Studenmayer, un historien qui vit actuellement aux États-Unis, un universitaire américain, a fait un travail qui n'est pas traduit, mais qui répond aux questions sur les liens entre anthroposophie et nazisme. Si ces questions vous intéressent, vous trouverez beaucoup d'éléments dans les travaux de Peter Studenmayer, qui est un peu devenu la bête noire de la société anthroposophique universelle, parce qu'il a en fait mis en avant une histoire qui n'est pas l'histoire officielle de l'anthroposophie, l'histoire officielle de l'anthroposophie étant une martyrologie avec des persécutions durant la Seconde Guerre mondiale et avant, durant la montée du nazisme, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque Rudolf Hess en personne, jusqu'à ce qu'il s'envole pour l'Écosse, était un protecteur de l'anthroposophie, et l'anthroposophie a été totalement soluble durant les longues premières années du nazisme. Dans le camp de Dachau, où on pratiquait la biodynamie, il y a eu des programmes expérimentaux avec des sociétés SS qui administraient des programmes de biodynamie, des programmes de médecine anthroposophique qui ont été également testés dans des hôpitaux allemands. Donc il y a eu un développement de la pseudo-science anthroposophique sous le nazisme, avec une histoire contrastée, parce que d'autres nazis dans la SS avaient d'autres visions ésotériques, et donc il y a eu des conflits entre pseudo-scientifiques nazis. Bon, ça c'est pour refermer la parenthèse et pour vous répondre sur ce point. La référence du blog de Grégoire Parra n'a pas été donnée, mais son site contient des informations utiles. Donc n'hésitez pas à aller le consulter si vous souhaitez prolonger cette réflexion. Quant à moi, donc j'ai été présenté, je suis un journaliste indépendant, je ne suis pas un spécialiste de ces sujets, mais j'ai travaillé pendant plusieurs mois donc sur l'anthroposophie, pendant plusieurs mois sur Pierre Rabhi, pour signer deux contributions dans Le Monde diplomatique, qui ont été publiées donc en juillet et en août. Ces deux articles sont en libre accès, ils sont désormais accessibles, y compris à ceux qui ne sont pas abonnés. Alors j'étais pas toujours très content quand ils étaient partagés gratuitement au moment de leur parution, parce que le nerf de la guerre d'un journaliste d'enquête, c'est qu'il y ait des supports et des titres pour défendre des travaux exigeants. Et ce mythe de l'information gratuite, qui est en réalité une information payée par la publicité, par exemple la publicité de Véleda sur France 2, ce mythe du journalisme gratuit n'existe pas. En réalité, si vous voulez une information de qualité, il faut l'acheter et il faut défendre les journaux qui produisent et qui s'impliquent pour défendre une information de qualité. En l'occurrence, donc, la contribution de Juillet s'intitule « L'anthroposophie discrète multinationale de l'ésotérisme ». Donc c'est signé de mon nom, Jean-Baptiste Mallet. La contribution sur Pierre Rabhi s'intitule « Le système Pierre Rabhi » a été publiée en une du Monde diplomatique au mois d'août. Donc ça, vous pouvez le retrouver en libre accès sur le site du Diplo. Ces enquêtes ont été rendues possibles, c'est important de vous préciser les conditions dans lesquelles ont pu être produits ces travaux, parce que le Monde diplomatique a fait le choix m'accorder en fait cette mission, et donc de s'impliquer financièrement sur cette enquête. Cela signifie que j'ai eu la possibilité de me rendre en Suisse, de me rendre dans des pays européens que je ne peux pas citer pour rencontrer des sources qui ont pu alimenter l'enquête. Dans le cadre de l'enquête sur Rabhi, ça veut dire la possibilité d'aller travailler longtemps en bibliothèque pour éplucher des bulletins, pour passer du temps à l'INATEC, à regarder tous les passages médiatiques de Rabhi depuis les années 80, et je peux vous assurer que c'est particulièrement pénible, parce que ce monsieur radote atrocement depuis 30 ans et ne parle que de lui. Donc je pourrais pratiquement imiter à la lettre Pierre Rabhi, parce que je connais désormais toutes ses anecdotes. Et donc ça demande des moyens que peu de journaux sont capables de mettre en place. Pour plusieurs raisons. Tout ce qui touche aux dérives sectaires, vous en avez fait pour beaucoup d'entre vous l'expérience. Quand des journalistes s'emparent d'un sujet, et notamment d'une dérive sectaire, beaucoup de journalistes ont des impératifs, et donc s'ils travaillent pour des médias privés, ils ont bien évidemment un objectif de rendement, c'est-à-dire faire de l'audience s'ils font un film documentaire, ou faire parler d'eux, ou se faire un nom s'il s'agit d'un titre possédée par un milliardaire, par exemple. C'est le cas de la plupart des grands journaux aujourd'hui, hein, c'est un fait, hein, la plupart des quotidiens, beaucoup d'hebdomadaires. Vous pouvez aller sur le site du Monde Diplomatique pour savoir à qui appartiennent les journaux, parce qu'on a fait une cartographie, et vous voyez les grandes puissances d'argent en fait, qui aujourd'hui possèdent un grand nombre de titres de presse. Même si ça n'inclut pas en fait un lien direct de contrôle de l'information, cela veut dire tout de même néanmoins que le journal répond à des objectifs commerciaux et que sa mission première, eh bien, c'est de vendre du papier ou de faire de l'audience pour vendre des espaces publicitaires. Tout cela, bien évidemment, nuit à la qualité de l'information et, en l'occurrence, sur tout ce qui touche aux dérives sectaires, s'attend, lorsqu'elles sont évoquées et présentées, à en faire un spectacle. Et ça, j'ai pu en faire l'expérience, hein, j'ai une expérience aussi dans le monde du film documentaire, je connais beaucoup de réalisateurs, je vois comment ils travaillent. Le film documentaire est l'espace où les journalistes d'enquête ont le plus de moyens pour travailler, le plus d'argent, le plus de temps. Malheureusement, il leur faut toujours mettre en scène des victimes, mettre en scène une forme de sensationnalisme, et ce n'est pas ce qui, moi, m'intéresse dans ma démarche journalistique. Ce qui comptait pour nous au sein du Monde Diplomatique lorsque nous avons donc lancé ces deux chantiers sur Pierre Rabhi et sur l'anthroposophie, c'était déjà de raconter une histoire des idées. Et donc j'ai signé un troisième article qui est très bref et qui mériterait un autre développement sur la société théosophique et la naissance au XIXe siècle de ce mythe, le mythe de l'insurrection des consciences. En fait, la société théosophique née au XIXe siècle avant l'anthroposophie et modélise en fait, si vous vous intéressez à la société théosophique, vous aurez vraiment la souche qui donne tout ce qu'on connaît aujourd'hui au XXIe dans le domaine des pseudosciences, de les grandes thématiques de la contre-culture que vous retrouvez après chez l'Impi, dans le New Age et aujourd'hui chez Rabhi ou dans l'anthroposophie. Donc il y a une troisième contribution sur le mythe de l'insurrection des consciences dans la société théosophique. Ce qui nous importait donc au diplôme, c'était de raconter cette histoire du spiritualisme, non pas pour nuire aux acteurs anthroposophes. Nous n'avions pas l'intention, en fait, quand nous avons écrit cet article, de nuire à Pierre Rabhi. Ce que nous voulions faire, c'était tout simplement mettre des mots sur les choses, nous interroger comment se fait-il, par exemple, que Pierre Rabhi puisse être soutenu par des militants écologistes radicaux, hostiles aux grandes multinationales, et que Pierre Rabhi puisse être invité des universités d'été du MEDEF, recevoir Jacques-Antoine Grandjean, le milliardaire, chez lui pour prendre le thé, ou le PDG de McDonald's, ou nouer une amitié avec M. Faber, le PDG de Danone. Comment se fait-il que Pierre Rabhi arrive à rencontrer Macron pendant l'élection présidentielle de Macron, ou alors soit le chouchou des médias en multipliant les apparitions médiatiques. Donc ce qu'on voulait, c'était tout simplement mettre en forme ces choses-là et raconter cette histoire. Autant vous dire que l'anthroposophie et Rabhi ont été deux sujets extrêmement difficiles à aborder parce qu'extrêmement denses. Moi, j'ai pour habitude de lire tout ce que je peux trouver, et donc je suis un gros lecteur, et 80% du temps de mes investigations consiste en un travail de lecture, notamment en bibliothèque, pour trouver des choses assez rares. Les 20% restants, c'est du travail de terrain et de rencontres avec des sources. Et quand vous vous attaquez l'anthroposophie, vous vous retrouvez face aux 450 livres de Rudolf Steiner, plus tous ceux de ses disciples, plus tous les verbiages qui peuvent être produits, eh bien c'est compliqué d'avancer, de mettre les choses en ordre. Donc cette contribution a été en fait une amorce d'une critique. Elle pourrait être tout à fait prolongée parce que c'est un sujet dense. Et la première révélation que je dois vous faire, et qui a été vraiment une découverte, j'avais déjà travaillé sur des dérives sectaires auparavant, j'ai notamment signé une contribution sur AMA, qui s'appelle AMA, l'Empire du Câlin, qui était également publié dans le Monde Diplomatique, sur la géopolitique du Câlin, et le fameux Darshan d'AMA, qui nous fera le plaisir de venir nous voir en France bientôt à l'automne. Il faut savoir, donc, quand on essaie de traiter de l'anthroposophie, que le sujet est difficile parce que ce n'est pas une organisation à dérive sectaire monolithique comme on a pu en voir beaucoup dans les années 90, on a cité tout à l'heure l'OTS ou d'autres mouvements. L'anthroposophie ne fonctionne pas du tout de cette manière, elle est extrêmement horizontale, elle est filialisée, et surtout tout le corpus intellectuel et la matrice intellectuelle mis en place par Rudolf Steiner avec la philosophie de la liberté, tout ce qu'a pu évoquer Grégoire tout à l'heure, laisse en fait une large autonomie au sujet pour évoluer à l'intérieur de l'anthroposophie en faisant un peu sa popote. Il peut être un agriculteur en biodynamie ou un médecin anthroposophe ou un pédagogue, entre guillemets, pédagogue de Nicole Steiner et évoluer relativement librement, puis avoir des débats, des dissidences en interne et donc une illusion d'échange et de démocratie à l'intérieur même de cette multinationale de l'ésotérisme. La grande révélation et la grande découverte que j'ai pu faire en fait en enquêtant sur ce sujet, c'est que c'est tout simplement l'une des organisations à dérive sectaire les plus puissantes du monde. Et je pèse mes mots. Combien d'organisations à dérive sectaire possèdent plusieurs banques avec des sommes en capitalisation qui dépassent l'entendement? En Allemagne, vous avez la banque GLS. En France, c'est plus timide avec la NEF, mais vous avez la banque Triodos qui est également très importante. Combien de mouvements à dérive sectaire, donc on possède des banques ou des grands laboratoires, puisqu'en l'occurrence Velleda c'est un laboratoire extrêmement important. Je cite le chiffre d'affaires dans mon article que je n'ai plus en tête actuellement, mais la Société Anthroposophique Universelle est un actionnaire important, majeur des laboratoires Velleda. Combien de mouvements à dérive sectaire peuvent se vanter d'avoir un parc d'écoles, je crois que c'est plus d'un millier d'écoles ou 1500 écoles, il y a le chiffre exact dans mon article, à travers la planète, avec des lobbies à Bruxelles. Actuellement, il faut le dire, au sein de notre gouvernement, un relais majeur en la personne de Françoise Nyssen, qui est elle-même la fondatrice d'une école Rudolf Steiner déguisée, puisque je me suis rendu dans cette école et j'ai pu constater Henri Dahan, très lié à l'anthroposophie avec sa femme Praxède Dahan, ont fondé cette école, ont organisé des cours de rythmie, donc c'était une école Steiner déguisée, et c'est Monsieur Capitani, donc l'époux de Madame Nyssen, en personne, qui a dit dans une revue anthroposophe allemande, nous ne pouvons pas parler ouvertement de Steiner parce qu'en France c'est pas très bien vu, c'est une tradition rationaliste, etc. Donc je n'ai plus les propos exacts, mais ils sont cités dans l'article. En fait, il avouait et confessait que c'était bien une école Steiner. Donc c'est un mouvement extrêmement préoccupant, non pas seulement parce qu'il s'ingénie, comme l'a très justement rappelé Grégoire, à percer la peau d'une dragon, mais également parce qu'il est un îlot de culture extrêmement actif et qu'il arrive à imposer des problématiques, des thématiques notamment militantes, et ce qui était très important pour nous aussi dans le monde diplomatique, c'était d'arriver à avancer sur ces terrains, parce que dans la gauche radicale aujourd'hui, l'anthroposophie a pu se développer et imposer certaines de ces thématiques, et donc c'était intéressant de rappeler la longue histoire des idées, et notamment de rappeler que Rudolf Steiner a été exclu du mouvement ouvrier en Allemagne, puisque Rudolf Steiner, pendant quelques années, a donné des cours à l'Université populaire de Berlin avant d'en être exclu. L'histoire du mouvement rationaliste s'appuyant essentiellement au XXe siècle sur les héritiers des Lumières que sont les libéraux et le mouvement ouvrier. Durant l'affaire Dreyfus, on retrouve le mouvement ouvrier et une bourgeoisie libérale qui prend la défense de Dreyfus contre les anti-lumières qui, eux, sont de l'autre côté de la barricade. Donc c'était important pour un titre comme Le Monde diplomatique de rappeler ces traditions intellectuelles, de remettre des repères dans tout ça. Et donc ça nous a amené à nous intéresser après au mois d'août à Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, qui est une vache sacrée médiatique, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, un personnage qui arrive à concilier des gens que tout oppose, et qui, là aussi, on enquête et au moment de la publication, on croit avoir vu des choses, et puis en fait j'en ai appris encore beaucoup d'autres une fois le papier publié. Ça fait maintenant 9 ans, je crois, que j'ai ma carte de presse, parce que j'ai commencé très tôt, j'ai eu ma carte de presse avant d'avoir ma licence de lettres. J'écrivais dans un journal marseillais qui s'appelle Le Ravi, dans lequel j'ai fait mes premières armes. Je n'ai jamais vu autant de réactions d'hostilité à l'une de mes contributions. J'ai infiltré Amazon, j'ai enquêté pendant 2 ans et demi sur la géopolitique du concentré de tomates. Donc j'ai signé un livre qui s'appelle L'Empire de l'or rouge, qui est traduit dans plusieurs langues. Enfin, j'ai mené des enquêtes qui ont pu secouer, mais là, je n'ai jamais vu autant de réactions d'hostilité que suite à ce papier sur Rabhi. Et j'ai découvert, en fait, par la virulence de ces réactions, que Rabhi était devenu une sorte de prêtre, de gourou, pour beaucoup de gens, finalement, en quête de repères. Mais une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose, parce qu'en fait, ça nous oblige néanmoins à penser la société d'aujourd'hui et le fait que de larges pans de la jeunesse, et notamment dans la classe moyenne, dans la petite bourgeoisie, ou des gens qui n'arrivent pas à s'insérer socialement, se retrouvent dans ces radicalités écologistes, parce que le discours de Pierre Rabhi, derrière la figure du sobre barbichu, de l'ascète, est un discours qui porte une véritable radicalité et qui n'est pas aussi inoffensif qu'il ne le paraît. Alors je vais vous lire quelques réactions. Notamment la réaction des anthroposophes à ma contribution, parce que j'ai été quand même invité pour parler des réactions, mais j'ai pas encore commencé. Il va falloir me couper si je suis trop long. Mais nouvelle, donc le bulletin de la Société anthroposophique universelle. Je vous lis la tribune officielle. En ce début d'été 2018, dans ce beau pays des droits de l'homme qui est le nôtre, nous sommes redevables à Jean-Baptiste Mallet d'une enquête entre guillemets au titre évocateur. Éducation, santé, agriculture, banque, les bonnes affaires des disciples de Rudolf Steiner, l'anthroposophie discrète multinationale de l'ésotérisme. Paru dans le numéro de juillet du Monde diplomatique, ce jeune journaliste a poussé la conscience professionnelle jusqu'à se rendre au Goetheanum ce 23 mars 2018 où il a pu interviewer plusieurs personnalités et assister à l'Assemblée générale ce jour-là. Doté d'un exceptionnel sens de l'éthique professionnelle, il a ensuite rédigé un article minutieusement orchestré où choix du vocabulaire, citations, mode de construction du récit et style s'harmonisent pour laminer tant l'anthroposophie que les entreprises, institutions et individus qui s'en inspirent. Une mise en forme du récit fort bien maîtrisée. Malheureusement, le fond est loin d'atteindre le même niveau. Soumis de bout en bout à la subjectivité et au parti pris de l'auteur, l'article perd toute crédibilité et dessert la réputation du monde diplomatique. Ce n'est pas une enquête tout court, c'est une enquête à charge, un pamphlet cynique. On peut se demander d'où provient l'intérêt de M. Mallet pour l'anthroposophie, alors que précédemment, dans son parcours professionnel, il a enquêté sur des entités d'une toute autre envergure, Amazon et la filière de la tomate industrielle. Est-ce du fait de son mépris pour tout courant spirituel, ou peut-être une volonté politique ? Quoi qu'il en soit, n'en déplaise à ce détracteur et aux autres, il existe de plus en plus d'individus sur Terre qui envisagent un monde différent de celui construit par les tenants du matérialisme et de son suppôt, l'athéisme. Et même si ces derniers imposent leur emprise de manière toujours plus sournoise, vindicative et violente, un certain Steiner nous a appris qu'il existe en chaque être humain une forteresse imprenable, peu qu'on s'attache à la consolider, le libre-penser. Le comité a fait paraître le 3 juillet sur le site de la Société anthroposophique en France un communiqué en réponse à l'article de Jean-Baptiste Mallet. Alors il est fait mention de violence dans cet article. Les tenants du matérialisme seraient des êtres violents. Moi j'ai vraiment veillé dans ces deux contributions à ne pas utiliser de mots qui puissent prêter à controverse. Je suis resté strictement factuel. Et je peux vous garantir, dans mes jeunes années, j'ai pu écrire pour Charlie Hebdo et j'ai pu être railleur, je me suis notamment infiltré au Mandarome. Ce sont des choses que je ne referai plus aujourd'hui parce que j'ai compris l'inefficacité qu'il pouvait y avoir à moquer et railler dans l'espace public les gens qui sont endoctrinés. Et ce d'autant plus que selon moi, les personnes vulnérables qui se retrouvent sous l'emprise de l'anthroposophie ou d'autres mouvements à dérive sectaire sont victimes d'une forme de domination. Ce sont généralement les classes les plus vulnérables qui se retrouvent majoritairement présents dans ces organisations à dérive sectaire. Il y a toujours des gens qui sont très fortunés. Marion Cotillard fréquente Pierre Rabhi, Anna, etc. Mais ce sont généralement, si on regarde la composition sociologique de ces mouvements, des gens qui se situent plutôt en bas de la pyramide des classes et non pas en haut. Et donc les railler, c'est, je crois, ajouter en fait une couche de domination supplémentaire. Et donc désormais, je produis des articles qui sont strictement factuels et qui ne se basent que sur les faits. Et donc la violence est mentionnée. Or, vous lirez ces articles, il n'y a pas un gramme de violence dans mes contributions. Cependant, les réactions à mes articles ont été extrêmement violentes. Il n'y a eu pas moins de 9 réactions officielles d'anthroposophes ou de personnalités morales, de personnes morales anthroposophes. Donc, la biodynamie a réagi officiellement, la pédagogie Waldorf a réagi officiellement, la société anthroposophique a réagi officiellement, des pasteurs, des prêtres anthroposophes de la communauté des chrétiens ont réagi officiellement. Il y a eu un déluge de lettres qui sont arrivées au monde diplomatique, certaines totalement délirantes et visibles, d'autres plus structurées, qui en fait avaient pour mot d'ordre le fait que le monde diplomatique était traditionnellement un bon journal, mais que cette fois-ci c'était extrêmement décevant et que ce journaliste athée avait commis une erreur profonde et que l'anthroposophie n'était pas une ennemie de la critique de la globalisation, etc. etc., etc. C'est extrêmement violent d'écrire à mon employeur et de lui signaler en fait que j'ai mal travaillé. Bon, ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est qu'en réalité, par cette démarche-là, ils ont confirmé, en fait, dans les têtes des rédacteurs du monde diplomatique, en fait, l'importance et l'intérêt majeur d'évoquer davantage ces thématiques, ces sectes, qui sont, en fait, une autre face du capitalisme tel qu'on le vit et tel que nous le subissons aujourd'hui. Puisque l'anthroposophie, il faudrait, je vais clore après avec l'anthroposophie parce qu'on pourrait en parler davantage, mais l'anthroposophie est aussi idéologiquement alignée sur l'époque, sur l'ère du temps. Si je prends par exemple les critiques de certains écologistes en faveur des énergies renouvelables, quand vous les écoutez, ils vont défendre par exemple des prestataires d'énergie privée pour faire du renouvelable. En creux, vous avez un discours de libéralisation absolue de l'école, de libéralisation absolue de l'énergie, de libéralisation absolue des systèmes alimentaires. Enfin, l'idée qu'il faut vraiment néolibéraliser au maximum l'économie, et le discours de Steiner, certains anthroposophes disent qu'il était très proche de certains anarchistes, c'est en partie vrai, non pas parce qu'il défend une liberté philosophique, mais parce que dans l'anthroposophie, sous des allures et des tonalités de critique du capitalisme, il y a tout de même l'idée qu'il faut laisser une liberté maximum aux individus localement pour s'organiser en communauté, et donc il y a en germe un discours qui est parfaitement ultra-libéral et qui est un ennemi revendiqué et assumé de l'État, du contrôle législatif, enfin des lois, de tous ces cadres collectifs qui peuvent à un moment régenter la société. Je vais maintenant vous parler brièvement des réactions de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, qui depuis la parution de mon enquête est énormément sollicité par les médias, il était avant, il l'est encore, demain sur Canal Plus à 12h45, nous découvrirons peut-être à la même heure le programme que lui consacre Canal Plus dans l'émission Clic, qui est allé en fait rencontrer le paysan ardéchois chez lui. Il faut savoir que ça fait bien longtemps que le paysan ardéchois ne cultive plus sa terre, mais il n'hésite jamais, pour une illustration, à prendre sa bêche et à couper 2 poireaux pour faire des images d'illustration. En fait, il a un employé qui travaille sur lui désormais, puisque ce monsieur a quand même 80 ans. Donc, Pierre Rabhi, j'ai pris l'attache j'ai contacté l'attaché de presse de Pierre Rabhi au mois de février 2018. Et je lui ai donc signalé que j'étais journaliste, que je souhaitais rencontrer Pierre Rabhi donc l'interviewer. J'ai également contacté un personnage qui s'appelle Maurice Freund, qui est un ami intime de Pierre Rabhi, qui a fondé une compagnie aérienne qui s'appelle Point Mulhouse, qui est un businessman qui était très actif au Burkina de Thomas Sankara, puisqu'en fait, dans le contexte en fait, de la guerre froide, il a pu fréquenter des dirigeants tiers-mondistes et avec des revendications tiers-mondistes faire du business dans des pays fraîchement décolonisés. Et donc Maurice Freund a été une pièce importante dans le dispositif de Thomas Sankara au Burkina, puisqu'il a notamment, par exemple, accepté à la demande de Sankara de transporter des armes de la Yougoslavie au Burkina et du Burkina jusqu'en Libye de Kadhafi pour aider Kadhafi à contourner l'embargo. Et ça, c'était la demande de Sankara. Donc il y avait une compagnie aérienne, il y avait du fret qui était fait. Et dans le contexte de l'époque où Sankara essayait de tenir tête aux puissances occidentales et notamment à la France, un personnage comme Maurice Freund qui avait des avions et qui pouvait donc lui donner un coup de main, c'était bienvenu. Ce qui donnait à Maurice Freund beaucoup de pouvoir au Burkina, et un jour il a inauguré un campement hôtelier, et puis dans ce campement hôtelier qui était une réplique d'un village africain, il voulait agir et faire du commerce équitable, du commerce éthique, du développement. Et donc un jour il a rencontré Pierre Rabhi, et Maurice Freund, qui ne connaissait rien à l'agriculture, a rencontré un personnage qui connaît très peu de choses en agriculture, qui s'appelle Pierre Rabhi, et qui connaît beaucoup de choses en agriculture biodynamique. Et donc cet autodidacte qui est Pierre Rabhi décidé de former en fait des paysans au calendrier lunaire de la biodynamie. Et donc en 1986, Pierre Rabhi est au Burkina, salarié du campement hôtelier, et forme des paysans burkinabés. Et c'est là d'ailleurs qu'Antenne 2 fait le premier reportage avec une musique psychédélique où Pierre Rabhi présente en fait ses œuvres. À partir de là, en fait, s'instaure un cycle très, très pervers où beaucoup de gens vont sur la seule foi en fait, du charisme de Pierre Rabhi, de sa capacité à mettre en récit les choses et de sa capacité en fait, à reprendre des argumentaires spiritualistes ou anthroposophes et de lisser ces argumentaires, Pierre Rabhi va commencer sa petite carrière de prophète. Va réussir petit à petit à construire son aura qu'il a aujourd'hui. Donc j'ai contacté Caroline Bourret et j'ai contacté Maurice Freund, qui était un personnage incontournable, et c'est via l'entremise de Maurice Freund qu'un mois et demi plus tard, j'ai pu rencontrer Pierre Rabhi. Je l'ai longuement interviewé, il m'a accordé un entretien, et dans ce téléphone, il y a 3 heures d'interview avec Pierre Rabhi, j'ai fait des copies bien entendu, et donc j'ai pu lui poser beaucoup de questions. Et c'est très difficile d'interviewer Pierre Rabhi, parce que quand vous lui posez une question d'ordre général ou d'ordre politique, il vous parle de lui, il ramène tout à sa petite personne, mais au bout de 3 heures, vous arrivez peu à peu à récupérer un peu de matière intéressante. Enfin, moi, ce qui m'intéressait, donc Pierre Rabhi m'a notamment dit que les Lumières étaient l'obscurantisme moderne. Il a critiqué très durement l'aide sociale, qu'il appelle le secourisme social, parce qu'il considère que plus on distribue de l'aide sociale, et donc plus ça pollue, parce qu'il faut produire des richesses, et donc on est dans le productivisme. Il faudrait mieux donner un lopin de terre à un chômeur pour qu'il puisse se reconnecter avec la nature. Bon. Et ça m'a permis de balayer en fait tous les champs que j'évoque dans mon article, à savoir une histoire non officielle de Pierre Rabhi qui n'est pas arrivé en Ardèche pour faire son retour à la terre, contrairement à ce qu'il affirme aujourd'hui. Pierre Rabhi n'a pas non plus connu ses racines et il affirme aujourd'hui avoir bénéficié d'une double culture. En réalité, Pierre Rabhi chante des racines qu'il n'a pas connues. La véritable histoire de Pierre Rabhi, c'est quelqu'un qui naît à Kenatsa, en Algérie française, dans les années 30, et qui perd sa mère, alors selon son texte de 1964, à 3 ans, selon sa biographie du Sahara Seven à 4 ans, et selon son tract de la présidentielle en 2002 à 5 ans. Donc Pierre Rabhi perd sa mère entre 3 et 5 ans et est adopté par une famille française, un ingénieur gaulliste et une mère institutrice. Et donc à partir de 3 à 4 ans, Pierre Rabhi va être éduqué à l'occidental dans le quartier européen puisqu'il va vivre à Oran. Et donc Pierre Rabhi porte des costumes, va à l'opéra, reçoit une très bonne éducation bourgeoise, et c'est sa mère qui l'initie à la littérature et qui lui donne ses outils, ce capital culturel qui va lui permettre plus tard de maîtriser la langue, d'être en capacité. Donc quand il joue avec l'image du Chibani qui serait arrivé en France dans les années 60, en réalité Pierre Rabhi voleur, et c'est pourtant ce récit qu'il utilise. Il explique qu'il est arrivé à Paris, qu'il a travaillé en usine à Puteau. Alors là, Cyril Dion par exemple a pu raconter que, il me l'a raconté en visioconférence que j'ai fait avec lui puisque je l'ai interviewé par Skype, que Pierre Rabhi avait travaillé à la chaîne chez Citroën. Pas du tout, Pierre Rabhi était magasinier, et magasinier peut être un poste d'observation intéressant du monde ouvrier, mais en réalité, comme tout bourgeois qui est arrivé dans le monde ouvrier dans les années 60, bien ça lui a été insupportable de travailler en usine. Et comme Pierre Rabhi s'est converti à 17 ans, puisqu'il s'appelle Rabat, son nom de naissance c'est Rabat, et qu'à 17 ans il se convertit au catholicisme et qu'il prend le nom de Pierre, à partir de ce moment-là, il devient un fou de Dieu, un catholique intransigeant, et il écrit dans le texte que j'ai exhumé, le texte de 1964 dans une revue ardéchoise, il a 26 ans, il écrit un texte qui s'appelle Autobiographie, c'est important à 26 ans d'écrire son autobiographie, il écrit Folie de la Croix, voici un extrême vivifiant. Donc c'est un fou de Dieu quand il est jeune, et parce qu'il est en banlieue parisienne à ce moment-là, il décide de faire, de retourner vers le paradis perdu, et donc de retourner à la campagne, parce qu'il est pétri du romantisme biblique en fait. Là, il rencontre un personnage incontournable qui s'appelle le docteur Richard, qui était un instructeur d'un chantier de la jeunesse sous Vichy, un médecin ardéchois, un médecin de choc, qui était un type brillant intellectuellement, totalement anti-lumière, hostile à la modernité, hostile aux infrastructures qu'on construit sous le gaullisme, défenseur des rebouteux, du patois, du terroir. Et Pierre Rabhi, quand il arrive en fait en Ardèche, est intégré à ce milieu-là, fréquente un type qui s'appelle Henri Soulerain, qui est lui aussi un ancien des chantiers de la jeunesse et un ami du docteur Richard. Pierre Rabhi rencontre également l'intellectuel Gustave Thibon, qui était un grand intellectuel maurassien d'extrême droite, qui est le prédécesseur intellectuel de Rabhi dans en fait, le paysage éditorial, comme écrivain, paysan, enraciné. Et donc Pierre Rabhi a une filiation intellectuelle. Et moi, je n'ai pas souhaité instruire une chasse aux sorcières en disant « Pierre Rabhi est d'extrême droite ». Non, je voulais simplement comprendre comment aujourd'hui Pierre Rabhi dit « Les Lumières, c'est l'obscurantisme moderne », c'est-à-dire comment Pierre Rabhi recycle des thèmes maurassiens. C'est la seule chose qui m'intéressait. Je prends beaucoup de plaisir intellectuel. Il y en a qui démontent des motos, moi je serais incapable de le faire. En tout cas, j'adore démonter des corpus et l'histoire des idées, de retrouver des éléments pour raconter ces histoires. Et donc, Pierre Rabhi, je l'ai interrogé sur ces points précis. Et donc, il a réagi récemment sur France Culture, où j'ai fait un droit de réponse, j'ai adressé à Mathieu Gallet un droit de réponse en accusé-réception. Ça fait 8 jours, j'ai fait une copie par mail. L'accusé-réception n'a toujours pas été retiré, donc j'attends désespérément. Mais Pierre Rabhi, le dimanche 23 septembre 2007, donc à 16h sur France Culture, était l'invité d'Aurélie Luneau dans l'émission de Cause à Effet, donc là, ça s'intitulait cette fois-ci La Voix est libre avec Pierre Rabhi. Donc Pierre Rabhi avait été invité des matins de France Culture cet été, là il était à nouveau invité pendant 1 heure sur France Culture, et donc il a consacré son temps de parole pour écrire à mon propos « Ce monsieur est venu chez moi, il aurait pu me poser des questions, pas du tout, il n'a posé aucune question, il est reparti, il a fait du puzzle, il a rassemblé quelques données par-ci par-là, et toujours à charge, à charge, à charge. » Et donc à propos de mes motivations, Pierre Rabhi a rajouté « Psychanalytiquement, je pourrais dire qu'il était en quête de sa propre valorisation et que s'attaquer à une personne qui est reconnue, peut-être, c'était plus commode d'arriver à ses fins. » Alors pour la vanité, vous me pardonnerez, mais mon livre « L'Empire de l'Or Rouge » est présélectionné pour le prix Albert Londres. Et j'ai eu la nouvelle avant que M. Rabhi, donc je n'avais pas besoin, et mon dernier livre est plutôt bien vendu, je n'avais pas besoin de m'attaquer à Pierre Rabhi pour cette stature, mais il a répété à l'Indépendant, le 27 septembre dernier. Donc l'Indépendant a annoncé la conférence à Narbonne de Pierre Rabhi en compagnie du professeur, du pseudo-médecin Henri Joyeux. L'Indépendant a annoncé cette conférence avec Joyeux, et Rabhi a affirmé « Je n'en veux pas à son auteur qui est un pauvre garçon en quête d'une stature, mais au journal qui ne m'a pas permis de répondre. » Et donc Pierre Rabhi ment, puisque ce propos donc est publié le 27 septembre, et qu'en réalité, Pierre Rabhi n'avait pas adressé de droit de réponse. Il a depuis adressé un droit de réponse au monde diplomatique, qui est en date du 4 octobre. Et donc, le 30 septembre, donc 3 jours plus tard, l'Alsace, cette fois, un autre journal de la PQR, dit à mon propos « Pauvre garçon, il a voulu se faire connaître, se faire remarquer. Il est venu à la maison, introduit comme un loup dans la bergerie, par un ami qui lui a fait confiance. » Il est resté un petit moment, mais ne m'a pas posé la moindre question. Il a ainsi pu justifier qu'il m'avait rencontré. Il s'est ensuite construit son propre fantasme, agrégeant des données rassemblées ça et là, ne retenant exclusivement que des éléments à charge. Alors, en fait, je confessais un travers que j'ai dans mon travail de reporter et d'enquêteur, c'est que j'ai une tendance un peu excessive à essorer mes sources. Et si un jour je vous interview, ça risque d'être assez pénible, parce que très long, je pose beaucoup de questions. Et la réalité, en fait, c'est qu'un journaliste d'enquête, même quand on vous raconte des bêtises, n'a jamais intérêt à se priver d'une source et du fait de ne pas poser des questions. En fait, la réponse de Rabbi est totalement absurde, parce que si vraiment j'avais eu, comme il le prétend, l'intention de lui nuire, alors mon intérêt aurait été de lui poser un maximum de questions. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai donc publié dans Le Monde Diplomatique quelque chose au mois d'août, et qu'au mois de septembre, j'ai été invité par Jacques Monin sur France Inter dans l'émission Secret d'Info, et à cette occasion, j'ai pu évoquer un deuxième volet qui n'avait pas évoqué dans l'article du diplôme, c'est le volet financier. Le fait que Pierre Rabhi gagne très confortablement sa vie grâce à ses droits d'auteur. Il a vendu plus d'1 200 000 ouvrages, ce monsieur. Il fait des conférences qui sont grassement rémunérées. Il a également un fonds de dotation qui engrange plus de legs et de dons qu'il n'en dépense pour des causes environnementales. Les comptes sont d'ailleurs accessibles sur Internet au journal officiel. Et Pierre Rabhi, d'ailleurs, fait supporter le salaire de son assistante personnelle par le fonds de dotation, alors même qu'il devrait être en fait un outil pour défendre les causes environnementales. Donc j'ai évoqué cet aspect financier en expliquant que Pierre Rabhi, ces derniers temps, a pu gagner entre 7 à 10 000 euros par mois, ce qui en soi, pour un auteur qui vend des livres, n'est pas quelque chose de choquant. Cependant, il faut rajouter deux faits à ce point précis, c'est que sur France 2, il y a peu, donc dans un sujet qui a été rediffusé en 2018 et qui a été diffusé une première fois en 2017, Pierre Rabhi montre son bureau et montre le sol, en fait, en disant « je dors sur des nattes à même le sol », en expliquant que c'est un asset, en fait, il n'a besoin de rien, et Pierre Rabhi répète souvent qu'on a besoin de rien pour vivre, en fait. Un demi-bol de riz, un bol d'eau chaude, quelques feuilles de thé, et on peut être heureux à partir de rien. Pierre Rabhi peut être heureux à partir de rien, gagne 7 à 10 000 euros par mois, mais quand j'ai posé la question, Pierre Rabhi reverse-t-il de l'argent à ses associations? Je n'ai même pas dit à autre chose qu'à sa propre cause. Là, la réponse a été négative, et donc l'équipe de Rabhi, le clan Rabhi, m'a dit « Pourquoi devrait-il reverser? Il donne suffisamment assez de sa personne, il a fait beaucoup, il a œuvré. » Et donc ça m'a été reproché. Et quand j'ai posé ces questions, Bernard Chevillard m'a reproché mon ton inquisiteur. Et là, encore une fois, je peux vous assurer que ce n'est pas dans l'intérêt d'un journaliste d'enquête d'avoir un ton inquisiteur. Si vous vous braquez avec vos sources et que vous êtes agressif, elles se referment comme une huître et vous ne pouvez plus travailler. Donc je n'avais absolument pas l'intention et l'intérêt d'adopter un ton inquisiteur, mais parler argent avec ces gens-là a fait que le ton s'est nettement durci. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Rabhi affirme, donc je n'ai pas posé de questions quand j'étais chez lui, mais Bernard Chevillard, depuis, qui est un monsieur qui avait une entreprise de cosmétiques bio, qu'il a depuis revendu à l'Occitane et qui est aujourd'hui à la tête d'une maison d'édition spiritualiste qui s'appelle les éditions Ozoni, qui ont publié du René Guénon et qui baigne dans l'ésotérisme, la tradition, voilà, tout ce spiritualisme chez Chevillard, assez chrétien, anti-lumière. En fait, Bernard Chevillard est aujourd'hui l'un des gardiens du temple de Rabhi, et donc il a publié dans La Croix récemment une réponse aux informations financières que j'ai pu donner sur France Inter. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il confirme tout ce que je dis, sauf qu'il dilue les chiffres en expliquant de ramener un contexte que j'aurais éludé donc, dans ma présentation. Et donc il confirme les chiffres, les faits, il explique pourquoi le gendre de Pierre Rabhi a été salarié du fonds de dotation. Enfin bon, il essaie de relativiser en fait la portée de mes propos, mais il ne contredit en rien les points. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que lui critique le fait que j'ai pu demander des compléments d'information par mail. Il dit « c'est quand même curieux, vous avez pu rencontrer Pierre Rabhi, vous ne lui avez pas posé ces questions ». Et donc en fait, je lui ai posé des questions d'ordre financier, mais elles étaient évasives, et donc j'ai envoyé des mails pour demander des compléments d'information, et ça m'est reproché, voilà, d'avoir demandé des compléments d'information par mail. Bon, donc vous voyez l'absurdité, l'un me reproche de ne pas avoir posé de questions, l'autre me reproche d'en avoir posé, mais par mail. C'est ça le niveau, en fait, et la ligne de défense de Pierre Rabhi aujourd'hui. Avant de vous laisser la parole, je voudrais revenir sur un point, sur Gustave Thibon, parce que c'est des choses que j'ai rarement l'occasion de dire. Rabhi affirme aujourd'hui en fait ne pas avoir beaucoup fréquenté Gustave Thibon, donc qui était cet intellectuel maurassien qui est acclamé par Charles Maurras en 1942, qui donne des conférences au chantier de la jeunesse sous Vichy, qui est l'une des figures du ruralisme de Vichy, que les Thierry Ferrer défendent le plus souvent en disant que Thibon a hébergé Simone Veil pendant l'occupation, ce qui est vrai, mais il faut quand même rappeler que, un, Thibon a refusé une première fois avant de l'héberger, et que, deux, une fois qu'il l'a hébergé, il a dit chez Jacques Chancel à la télévision dans les années 80, lorsqu'il a été interrogé à ce propos, « Je l'ai hébergé, bien que le caractère juif ne soit pas tout à fait dans mes cordes. » Et Chancel réagit en disant « Mais ça, c'est un propos antisémite. » Et il répond, il dit « Non, non, je ne suis pas antisémite. » Bon, Thibon, qui fait l'éloge de Maurras dans les années 60 dans l'Action française, qui était membre de la cité catholique de Jean Housset, qui était Algérie française, qui était ami avec Bernard Anthony. Enfin, Thibon, qui, si vous le lisez, est un intellectuel d'extrême droite pur sucre. Mais alors là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de gras. Hein. Quand vous lisez Thibon, c'est pas comme Rabbi, vous n'avez pas besoin d'essayer de comprendre. Non, non, tout est parfaitement clair. C'est un catholique qui pense que l'Église n'est plus catholique, donc c'est un traditionnaliste. Rabbi, avant la publication de mon papier, a donné une interview en fait à la revue des éditions Odoni, donc son ami Bernard Chevia, et écrit « Dès 1962, je suis allé en pèlerinage à Saint-Marcel-d'Ardèche, donc c'est là où vivait Thibon, en tremblant presque, raconte Rabbi, à propos de sa première rencontre avec Thibon. C'était un érudit, un paysan authentique et un vrai philosophe. On voyait chez lui une grande polarisation terrestre et cosmique. Il était très cultivé. » Et il avait fréquenté Jacques Maritain. J'étais alors très heureux de rencontrer un tel philosophe chrétien et j'ai adhéré à ce qu'il disait. Donc j'ai rencontré la secrétaire de Gustave Thibon qui m'a expliqué qu'il s'était rencontré à de nombreuses reprises, que la cuisine de Rabbi était excellente parce que Thibon est allé déjeuner également chez Rabbi. Et Thibon, il faut le savoir, jusque dans les années 90, en fait, en 1995, dans son livre L'illusion féconde, il met, donc c'est publié en 95, visite de Rabbi. Il me donne cette définition du chef dans une tribu sauvage, celui qui va le premier à la mort. Donc on voit qu'il y a un échange, et bien dans le droit de réponse que vient de nous adresser Pierre Rabhi, il est dit qu'en fait il n'aurait pratiquement pas connu Gustave Thibon, que Thibon effectivement l'a dépanné un petit peu financièrement quand il était en Ardèche, mais qu'en réalité il avait hérité d'aucune idéologie. Donc vous voyez, Rabhi, et ça je l'ai vu, c'est un type redoutablement intelligent qui a une capacité à changer de registre de langue, et à réinventer les faits et à mentir, affirmer que je ne l'ai pas interviewé alors que je l'ai interviewé, une capacité à mentir, à se camoufler, à se déguiser, qui est assez stupéfiante. Et c'est quelqu'un, contrairement à cette allure un peu naïve, un peu candide, qu'il arrive bien à instiller, y compris dans les entretiens, qui sait parfaitement à qui il s'adresse et qui va adapter en fonction des journalistes son registre de langue. C'est assez surprenant des fois de l'entendre développer des raisonnements intellectuels extrêmement poussés et anti-lumière dans certaines circonstances, et dans l'autre, de rester vraiment au niveau du rat des pâquerettes pour s'adapter. S'il est dans un salon du bien-être, comme j'ai pu le voir à Montpellier, il va utiliser vraiment un ton très paternaliste en s'adressant à des gens un peu débiles, enfin du moins comme on s'adresserait vraiment à des enfants en école maternelle, et il est capable de changer son registre et de parler vraiment différemment. Un mot de deux confrères, Fabrice Nicolino et Marie-Monique Robin, qui sont réputés être deux combattants de l'écologie. Fabrice Nicolino était le premier à réagir à mon article sur Pierre Rabhi. Il a fait un papier très très long pour dénoncer mon article en expliquant que c'était de la désinformation et qu'il avait le devoir de défendre son ami Pierre Rabhi. Alors, il faut savoir que quand on est journaliste, ce n'est pas déontologique de défendre ses amis. On n'écrit pas, on ne prend pas la plume pour défendre ses amis. On défend des faits, on rétablit des faits, on vérifie des informations, mais ses états d'âme, c'est pas très important. Bon, il a la liberté de s'exprimer, il s'exprime sur son blog, et il contextualise en fait l'article que j'ai produit, qu'il qualifie de stalinisme culturel diffus. Il considère que c'est l'émanation en fait d'une longue histoire intellectuelle française, l'histoire du stalinisme, et donc l'histoire du monde diplomatique qui a défendu Cuba, etc., et que donc Jean-Baptiste Mallet, que vous avez en face de vous, né en 1987, est en fait le prolongement de cette histoire du stalinisme. Ce que j'objecte, c'est que je ne suis pas pour ma part un promoteur du culte de la personnalité. En revanche, dans des lieux, des salons du bien-être où j'ai pu me rendre dans le cadre de mes enquêtes, j'ai pu constater qu'il y avait des portraits géants de Pierre Rabhi. Je me suis même fait photographier à côté de l'un d'eux, le pouce dressé, avec un portrait immense de Pierre Rabhi. Donc le culte de la personnalité est le propre des Colibris, de Nicolino et d'autres. Marie-Monique Robin a réagi également sur son blog Alors comme le disait Serge Biscot très justement tout à l'heure dans la critique des labos, c'est très facile en fait quand on est dans un mouvement universitaire de critiquer les labos parce qu'ils font tellement n'importe quoi qu'on a toujours du grain à moudre. C'est la même chose avec Monsanto. Monsanto qui est bien évidemment une entreprise hautement contestable, critiquable, qui a pu se livrer à des choses terribles. Le gros problème de la critique de Monsanto par Marie-Monique Robin et par certains journalistes que je ne qualifie, qu'il ne faudrait pas qualifier de journaliste mais de militant, c'est qu'ils ne font pas de critiques rationnelles de Monsanto ou d'autres grandes multinationales, ils les diabolisent. Et donc Monsanto n'est pas critiquable parce que c'est une multinationale qui fait du profit en s'affranchissant de l'éthique, de la morale, etc., enfin, de ce qu'on veut. C'est le mal parce que c'est le diable incarné et que face au diable et aux ténèbres, eh bien, il y a la lumière, les chevaliers blancs, telle que Marie-Monique Robin. Et donc elle m'attaque, elle explique que je ne connais strictement rien à l'agriculture et que d'ailleurs j'ai non seulement attaqué Pierre Rabhi, mais qu'avant ça j'avais attaqué l'anthroposophie. Et elle dit c'est n'importe quoi de critiquer l'anthroposophie et la biodynamie. Elle dit moi-même j'ai vu que la biodynamie ça fonctionnait dans mes documentaires, notamment l'un qui a été diffusé sur Arte, qui est sous influence parfois anthroposophique parce que en Allemagne l'anthroposophie c'est pas comme en France, c'est vraiment la pseudo-science majeure de ce pays. Donc Marie-Monique Robin dit Jean-Baptiste Mallet écrit n'importe quoi à propos de l'anthroposophie et de la biodynamie, elle défend la bouse de corne. Elle dit ah, la bouse de corne, je vois déjà les esprits rationnels sursauter à la lecture de ces mots. Pour ceux qui ne le savent pas, la bouse de corne, ce sont ces cornes dans lesquelles on met de la bouse, qu'on enfouit sous la terre et qui permettent ensuite de dynamiser spirituellement les champs pour qu'ils soient conforme hein, aux préceptes de Rudolf Steiner et des pères de la biodynamie. Donc elle écrit « Rassurez-vous, l'efficacité de la bouse de corne ne relève pas de la magie, mais de propriétés physico-chimiques très rationnelles, ainsi que me l'a expliqué un céréalier de la forêt noire, dont les résultats agricoles sont si spectaculaires que sa ferme attire chaque année des centaines de paysans européens qui n'en peuvent plus des effets de la modernité agricole, érosion des sols, vulnérabilité aux aléas climatiques, baisse de rendement, etc. » Donc là, on a le discours habituel en fait des anthroposophes, et donc je pense que je publierai ces prochains jours ou ces prochaines semaines un droit de réponse général que j'intitulerai peut-être « Suite et fin » parce que je suis un peu fatigué de débattre avec des relativistes qui de toute manière se fichent des faits et des arguments, mais on pourrait, et je pense que j'inviterai Robin dans mon droit de réponse, à consulter une étude qui est assez intéressante, que je cite dans mon article sur l'anthroposophie, qui montre qu'en fait, quand vous prenez deux parcelles, l'une en biodynamie et l'autre en agriculture biologique, vous n'avez aucune différence de rendement, qu'il n'y a en fait aucun effet des pratiques agricoles biodynamiques sur les champs. C'est la même chose avec les calendriers lunaires. Si vous faites du maraîchage, que vous avez un champ, amusez-vous à respecter scrupuleusement le calendrier biodynamique de Rudolf Steiner. Faites des semis un jour avant, un jour après, faites-le sur des grandes parcelles, et vous constaterez, d'autres l'ont fait avant vous, qu'il n'y a absolument aucun effet. Voilà, je pourrais continuer en fait longtemps, mais je préfère peut-être abréger, avoir un petit débat. En tout cas, je vous remercie pour votre attention.
On va peut-être prendre quelques questions. Merci. Et puis, je restais attentif au monde diplomatique parce que...